Bonjour. Alors j'aimerais lire avec vous un récit bien connu. Si tu veux envoyer la... Sur la foi de Thomas ou de Saint Thomas. Et j'aimerais lire avec vous ce passage qui nous parle de la confession de foi de Thomas. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, à la fin de cet évangile. Donc chapitre 20, et nous allons lire les versets 19 à 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, nous nous trouvons, pour expliquer un petit peu, nous nous trouvons après la résurrection. Jésus est déjà apparu aux femmes au tombeau, il est apparu aux disciples d'Emmaüs, il est apparu à Simon-Pierre, et voilà cette scène qui est là. Au soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Shalom, que la paix soit avec vous ». Quand il les dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé jumeau, Didyme, ça veut dire jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque le Seigneur vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne me mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Shalom, que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains et avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors la lecture de ce passage nous dévoile une scène en 3 temps. La rencontre de Jésus avec ses disciples, un dimanche, Thomas n'est pas là. Ensuite, le témoignage des disciples auprès de Thomas, pendant la semaine. Et ensuite, la confession de Jésus et de Thomas. Pardon, la rencontre de Jésus et de Thomas le dimanche suivant. Donc cet épisode va nous permettre de mettre en évidence 6 points, et sur ces 6 points, je vous prierai de tirer 7 conclusions. Le premier point de cette histoire, c'est que notre salut a une source ancrée dans l'histoire. Qu'est-ce qui fait la valeur de ce que les disciples ont découvert? C'est la vie de Jésus. Ce Jésus qu'ils avaient vu sur la croix, qu'ils avaient vu mettre au tombeau, ils peuvent maintenant constater qu'il est vivant. Et ils le constatent. Et c'est très important pour nous qu'ils aient constaté cela. Parce que si nous avons la foi maintenant, elle est basée sur ce que leurs yeux ont vu. Ce qu'ont vu les yeux des femmes au tombeau, ce qu'ont vu les yeux des disciples d'Emmaüs, ce qu'ont vu les yeux des disciples qui ont participé à la pêche miraculeuse, qui est racontée un peu plus loin dans l'évangile de Jean, ce qu'ont vu les 500 témoins dont parle l'apôtre Paul, tous ceux-là qui ont vu ont pu transmettre. Et notre foi à nous est basée sur leur témoignage. Et l'évangile est là. Jésus le crucifié est vivant. L'évangile, ce n'est pas des discours. Ce n'est pas des miracles, aussi glorieux soient-ils. Ce n'est pas l'amour de Jésus pour les pauvres et les défavorisés de son temps. Bien sûr, tout ça, c'est important. Mais l'évangile, c'est que Jésus est vivant, après avoir été mort. Première conclusion, donc. Le témoignage du chrétien s'appuie non sur des discours, mais sur le fait de la résurrection. Si nous voulons que des amis, que des connaissances se tournent vers le Seigneur, il faut insister sur le fait que Jésus est ressuscité. C'est un miracle, c'est quelque chose de prodigieux, c'est difficile à croire, et pourtant c'est la base de notre foi. Le deuxième point que je voudrais mettre en évidence, juste pour souligner ça, l'apôtre Paul a écrit dans la première épître aux Corinthiens. Vous savez, à Corinthe, il y avait des gens qui mettaient un peu en doute le fait qu'on puisse ressusciter. Et Paul leur écrit, mais si vous ne croyez pas à la résurrection, à votre résurrection, c'est aussi que vous ne croyez pas à celle de Jésus. Et il leur dit, 1 Corinthiens 15, verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Voici donc la bonne nouvelle. Jésus est vivant et donc vainqueur de la mort. C'était notre première conclusion. Deuxième point, Dieu se sert de son Église pour annoncer l'Évangile. On voit que Jésus va donner tout de suite un ordre de mission à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et on va voir que les disciples ne vont pas tarder à être les porte-parole de cet évangile, de cette bonne nouvelle. Ils vont accepter tout de suite d'être les envoyés. Et je vous propose une deuxième conclusion. L'annonce de l'Évangile pour les chrétiens, ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande de faire. Et qu'est-ce qu'il nous demande de dire ? Nous avons vu le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Mais comment est-ce que les disciples vont aller dire cela à Thomas ? Comme une banalité ? Ouais, il a fait beau cette semaine. Ah ouais, tiens, en fait, on a rencontré Jésus. Et ta femme, ça va ? Oui. Non, ils ne vont pas le dire comme ça. Ce n'est pas une banalité. Ni une information comme la météo. Nous vous faisons savoir qu'avant-hier, Jésus de Nazareth s'est montré à un groupe de ses anciens amis. Mais non, ils ne vont pas le dire comme ça. Leur vie, leur façon d'être a été transformée par cette révélation. Jean nous dit que les disciples furent d'une grande joie en voyant le Seigneur. Alors comment ils l'ont dit à Thomas ? Mais ils l'ont dit, on a vu le Seigneur, avec enthousiasme, avec en montrant que ça les avait bouleversés, ça les avait changés. Cela a dû se voir. La preuve que ça s'est vu, c'est que Thomas, la semaine d'après, il était là. S'il n'avait pas été impressionné, il aurait dit, bon, écoutez, chacun pour soi. On part chacun de notre côté. Donc, je vous propose une troisième conclusion sur ce thème. La façon dont nous vivons notre foi, la façon dont nous en parlons, doit souligner notre annonce de l'Évangile. Si nous vivons notre foi comme tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon, comme un lundi. Nous sommes supposés avoir la vie éternelle. Et l'éternel, ça ne veut pas dire simplement dans la durée. Jésus a prié son Père en disant « Je te prie pour qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient, s'il parle de ses brebis, nous, et qu'elles l'aient en abondance. » Si nous ne sommes pas un peu enthousiastes dans notre façon de vivre, que vont voir les gens dans notre vie? Est-ce que ça va leur donner envie de se tourner vers ce Jésus dont nous parlons? Alors, je vais vous parler un peu aussi du parcours Alpha. C'est comme si vous l'avez un t-shirt rouge neuf au milieu de draps blancs. Ça finit par déteindre. C'est bien qu'on déteigne les uns sur les autres pour ça, parce que c'est important. Alors, excusez-moi, mon truc qui s'est arrêté. Donc, si je voulais vous parler du parcours Alpha, c'est que dans ce parcours Alpha, vous savez qu'il y a un repas, des repas, et que au cours de ce parcours Alpha et au cours de ces repas notamment, mais peut-être aussi à d'autres moments, je pense que les invités voient les chrétiens et voient leur façon de vivre. Est-ce que notre façon de vivre fait envie d'être disciple de Jésus? Ou est-ce que on va dire, oh, bon, si c'est ça, les disciples de Jésus, c'est tristounet, Ceux qui ont conçu ces parcours Alpha ont intégré là-dedans des moments où des invités, des non-chrétiens, voient vivre des chrétiens. Est-ce que ces chrétiens ont une vie qui fait envie? C'était notre troisième conclusion. Un autre point, c'est que nous avons la chance, enfin, le récit nous montre un Thomas qui a une démarche de recherche. Ce pauvre Thomas, on en minimise souvent les mérites. On dit, oh, lui, c'est l'incrédule de service. Mais non, ce n'est pas l'incrédule de service. C'est le croyant de service. Seulement, il met un peu des formes. C'est tellement incroyable ce qu'on lui annonce. Alors, en entendant ce que ses amis lui disent et en constatant leur joie, il n'est pas envahi par l'indifférence générale. Il veut en savoir plus et il pose des conditions. Et finalement, quand il pose des conditions, si je ne constate pas les marques de la crucifixion, en gros c'est ce qu'il dit, je ne croirai pas. Il veut des preuves. Mais finalement, il se met en danger. Il se met en danger de s'ouvrir, de changer. Et c'est ce qui va lui permettre d'être présent avec les disciples et de ne pas abandonner la partie. Et chose merveilleuse, Jésus ne lui refuse pas une deuxième chance. Et heureusement pour nous, heureusement pour tous ceux qui cherchent, le Seigneur nous accorde plusieurs chances. Très souvent, la foi ne se développe pas après juste un témoignage. C'est souvent plusieurs choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on constate, et puis il y a un cheminement. Il faut avoir conscience et être conscient quand nous témoignons que notre témoignage n'est qu'une étape dans le parcours spirituel de quelqu'un. Je vous propose cette conclusion. Nous devons accepter que ceux à qui nous avons parlé aient leur propre cheminement, qu'ils se donnent du temps, qu'ils réfléchissent. Et nous devons remercier le Seigneur lorsque des personnes qui ne sont pas encore convaincues acceptent de faire un bout de chemin avec nous. Et il faut les accompagner dans cette démarche. Donner du temps au Seigneur pour qu'il pénètre les cœurs. Vous vous souvenez ce passage de l'Apocalypse 3, « Je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai, dit le Seigneur. » Et ça, ce n'est pas un Dieu qui enfonce les portes, c'est un Dieu qui frappe et qui attend qu'on ouvre. Alors, c'est le but des rencontres multiples dans le parcours alpha. Pourquoi le parcours alpha, il y a 10 soirées, voire 11, voire 12, sans compter le week-end? C'est parce que ceux qui ont conçu cela ont bien remarqué, et Willem nous l'a dit tout à l'heure, que ce n'est pas la première fois, la première soirée, qu'on va se dire « oui, oui, c'est pour moi, c'est pour... » Ah, peut-être, ça peut exister. Mais je pense que c'est plutôt l'exception que la règle. C'est plutôt des personnes qui, à plusieurs contacts avec des chrétiens, à plusieurs contacts avec la parole de Dieu, après plusieurs temps comme ça, vont se tourner vers le Seigneur. Laissons du temps au temps et accompagnons ceux qui sont intéressés par la parole. Un point supplémentaire, c'est que rien ne remplace la rencontre directe avec Jésus. Thomas est interpellé parce que ses amis lui ont dit « On a vu le Seigneur, ils ont l'air contents. » Mais c'est seulement en présence de Jésus que ces barrières vont tomber et qu'il va vraiment croire. Il va passer du stade intéressé au stade convaincu. Et dans notre témoignage, nous devons aussi encourager les personnes à faire cette rencontre. J'ai entendu ça dans le témoignage de Willem tout à l'heure. Hein, c'est qu'il y a eu un moment où c'est passé, ça fait tilt, ça s'est ouvert. Et c'est le moment où il a été en contact direct avec le Seigneur. Et même à notre époque où nous ne pouvons plus voir Jésus en chair et en os, il peut y avoir cette rencontre avec le Christ ressuscité. Alors je vous incite à être des André. Vous savez ce que c'est un André? Il y en a un là. Hein? C'est le frère de Pierre, oui, André. Et moi je trouve que c'est un personnage très intéressant, André. C'est pas, comment dire, entre guillemets, une grande gueule comme son frère Simon. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui fait pas beaucoup de bruit. Et quand il voit quelqu'un qui lui dit Jésus, qui c'est, il fait pas des grands discours. Il dit viens et vois. Il l'amène à Jésus. C'est comme ça qu'il a amené Simon à Jésus, qui est devenu Pierre. Et puis plus tard, il y a des Grecs aussi qui veulent voir Jésus. Ah, il passe par Philippe. Philippe en parle à André. André dit « Attends, moi j'ai la solution » et hop, il les amène à Jésus. À notre époque aussi, il y a des André. Et je vous encourage à être des André. Si vous ne savez pas bien donner les détails, souvent les gens ont des tas de questions. Je n'ai pas forcément les réponses à tout, mais viens et vois. Et vous pouvez les inviter ici, à l'église, au culte, le dimanche. Et bientôt, vous allez avoir la possibilité de les inviter pour le parcours alpha. Viens et vois. Soyez des André. Et lorsqu'ils seront ici, nous espérons qu'ils puissent faire cette rencontre avec le Christ. Notre témoignage n'aura vraiment atteint son but que si nous amenons les personnes à un contact direct avec Jésus. Et vous savez que c'est le but principalement de certaines soirées alpha, notamment la soirée sur la prière et puis le week-end aussi, d'inciter les personnes à ne plus simplement écouter ce qu'on leur dit, ce qu'on leur a proposer, mais d'avoir un contact direct avec Jésus. C'est la cinquième, il y en a sept, hein, on progresse. Il y a une belle phrase quand même dans ce que nous avons lu. « Toi, tu as vu, dit Jésus à Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et je crois que c'est notre cas à tous ici, de n'avoir pas vu, vu comme Thomas a vu, en chair et en os. Parfois, nous sommes un peu jaloux des disciples qui ont tout vu. Et ça nous semble un peu paradoxal parce qu'ils ont tout vu et ils ont un peu de la peine à croire parfois. Et on se dit, mais nous on est défavorisés quand même, on est 2000 ans après, comment voulez-vous qu'on croie? Et pourtant, Jésus dit, bienheureux. Et le texte nous fournit une explication. C'est que qu'est-ce qui a consolidé le fait que les disciples ont cru, c'est que Jésus a dit « recevez l'Esprit ». Qu'est-ce qui fait que nous croyons? Qu'est-ce qui peut nous convaincre? Qu'est-ce qui peut convaincre les gens à notre époque si ce n'est le Saint-Esprit? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner le privilège de croire. Vous savez, Jésus, quelques chapitres avant, Jésus avait déjà prévenu ses disciples, avant sa mort, qu'il allait quitter cette terre et qu'il ne verrait plus, mais qu'il allait leur fournir un remplaçant, un autre défenseur. Et on trouve ça en Jean 16, par exemple, verset 5, ou en Jean 15, verset 26, où Jésus dit « Quand le défenseur sera venu, le Saint-Esprit, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins. » C'est lui, le Saint-Esprit, qui rendra témoignage. Alors, la sixième conclusion, elle est un peu longue, mais c'est la même phrase dite à l'envers. Ne nous imaginons pas que nous sommes capables de convaincre qui que ce soit. Seul l'Esprit de Dieu peut convaincre. Et la phrase opposée, ne nous imaginons pas que si nous ne convaincons pas, c'est notre faute, que nous sommes en échec. Seul Dieu est souverain et Dieu appelle qui il veut. Quand il veut. Ne nous sentons donc pas coupables si après avoir témoigné à une personne, la personne dit non, ça ne m'intéresse pas. Notre travail, nous, c'est d'être des André. Ce qui se passe entre la personne et le Seigneur, c'est le Seigneur que ça regarde, et notamment le Saint-Esprit. Nous pouvons-nous prier? Prier pour que cette personne fasse vraiment cette rencontre avec le Seigneur. Et il y a, pour reparler du parcours Alpha, l'importance de la prière avant, pendant et tout au long du parcours de la prière pour les personnes que nous avons, que nous allons inviter ou que nous avons invitées pour que il puisse faire cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et puis, il y a l'importance accordée au Saint-Esprit pendant le week-end où, finalement, tout est centré sur lui. Et notre dernier point, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le récit, mais Thomas va comprendre plus que ce qu'on lui a dit. Il va aller plus loin que ce que les premiers disciples, ceux qui avaient été là le dimanche d'avant, n'étaient allés. Du moins, ils ne l'avaient pas exprimé. Il va constater la vie de Jésus et il va en tirer les conclusions. Non seulement il ne doute plus, mais en un éclair, il comprend toute la dimension de Jésus. Ce Jésus ne peut être vivant que s'il est parfait. Que donc, si tout ce qu'il a dit est vrai, Il est donc vraiment celui qu'il prétendait être. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et on voit dans sa confession de foi, on voit une soumission. Mon Seigneur et mon Dieu. On comprend alors que Thomas va mettre sa vie au service de ses seigneurs morts et ressuscités qu'il a devant lui, que sa vie tout entière va en être transformée. Ce n'est pas simplement « Ah bah oui, c'est intéressant, tiens, t'es vivant. » Non, c'est beaucoup plus que ça. Sa vie va en être transformée, mon Seigneur et mon Dieu. Et notre vie doit être transformée par le fait que nous ayons rencontré le Seigneur. Elle ne doit plus être une vie centrée sur nous-mêmes, sur nos priorités, mais sur les siennes. Il est notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui qui décide maintenant. Et notre espérance pour ceux à qui nous témoignons de notre foi, c'est que non seulement ils soient informés, hein, c'est-à-dire qu'ils finissent, par exemple, le parcours Alpha, en disant « ouais, c'est intéressant, on a compris ce que c'était que des chrétiens, oui, bon, c'était informatif. » Non, c'est pas ça notre espérance. Notre espérance, c'est qu'ils le reconnaissent comme Dieu et que leur vie en soit transformée. Je vous propose cette septième et dernière conclusion. J'ai pas fait exprès qu'il y en ait sept, mais c'est le chiffre parfait quand même. La vie du chrétien est une vie de soumission volontaire à notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'expression que l'emploie Paul dans l'Épître à Tite, chapitre 2, verset 13. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que notre vie soit une soumission. Et notre espérance, c'est que, à travers notre invitation, que d'autres personnes puissent dire, comme l'a exprimé Willem tout à l'heure, puissent dire « Mon Seigneur et mon Dieu » à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Thank you.